d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Menace chimique sur le Donbass. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir frappé un réservoir d'acide nitrique. Les habitants pris au piège dans les ruines de Severodonetsk doivent rester à l'abri. Nous avons pu joindre le maire de la ville. 5,2%, l'inflation augmente encore et avec elle, les tensions salariales en entreprise. À Toulouse, les salariés d'un sous-traitant d'Airbus sont en grève. La direction assure qu'elle ne peut pas faire plus pour la fiche de paye. Reportage à suivre. Dans ce journal aussi, l'ultra-droite et ses méthodes violentes devant la justice. La campagne des législatives. Deux Sandrine Rousseau se présentent à Paris. Et puis à la veille du jubilé de la reine, même les plus petites villes anglaises se préparent à faire la fête.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui l'animateur et commentateur de jeux vidéo Adrien Nougaret, alias Zerator, pour la Trackmania Cup 2022. C'est ce samedi à l'Accor Arena.
France Inter.
Une ville détruite à 90%, Alexis, et des habitants pris au piège sous le feu russe.
C'est ce qu'on disait de Mariupol il y a quelques semaines, et c'est exactement ce qui est en train de se passer aussi à Severodonetsk. Le scénario du pire se répète dans l'est de l'Ukraine. Cette ville stratégique du Donbass est désormais en grande partie aux mains des forces russes, et aux bombardements incessants s'ajoute ces dernières heures le risque chimique. Selon les Ukrainiens, une frappe russe a touché le réservoir d'acide nitrique d'un site industriel. Ce danger-là, c'était précisément le cauchemar du maire de Severodonetsk que Denis Kataïev et Julie Pietri ont pu joindre.
C'était peu de temps avant l'explosion du réservoir. Au téléphone, Alexandre Struk fait part de son inquiétude. L'usine Azot, gigantesque site chimique à l'arrêt depuis 3 semaines, est visée par des frappes russes. Une explosion d'ammoniac, ce serait dangereux pour tout le monde, dit-il, agresseur et défenseur. Le nuage chimique pourrait provoquer une pollution massive sur des kilomètres. Si cela arrive, que Dieu nous protège. Quelques minutes plus tard, des soldats ukrainiens basés près de l'usine postent des vidéos. Un épais nuage de fumée orange s'élève vers le ciel. « C'est quoi ça ?» s'exclame l'un d'entre eux. « Je comprends pas. On peut être empoisonné ?» Pour le gouverneur de la région, c'est un réservoir d'acide nitrique qui est touché. Le maire de Severodonetsk confirme, les habitants sont appelés à rester dans leurs abris. Risque pour les poumons, les yeux, la peau, disent les autorités. Pour les Russes, peu importe que les gens survivent ou non, leur but, c'est de prendre le territoire. Avant de raccrocher, Alexandre Struk affirme que 800 civils, des travailleurs de l'usine et leurs familles, sont réfugiés dans les abris antiaériens du site.
Et ce matin, le président Zelensky parle de folie des Russes après cette frappe contre une usine chimique. Cette guerre en Ukraine va-t-elle pousser les Danois à rejoindre la politique de défense de l'Union européenne? Un référendum est organisé aujourd'hui au Danemark. Le oui est favori des sondages, mais l'abstention pourrait être importante. Depuis son entrée dans l'UE, Copenhague a jusque-là refusé de participer aux missions militaires européennes.
Il est 7h34 en Allemagne, Alexis. Le puissant syndicat de la sidérurgie hausse le ton pour les salaires.
Et la fédération IG Metall lance des grèves d'avertissement pour peser sur les négociations salariales en cours. Elle réclame un coup de pouce significatif alors que l'inflation frôle les 8% outre-Rhin. Chez nous, la hausse des prix est moins forte, 5,2, mais ça n'en reste pas moins un record depuis 37 ans. De quoi là aussi pousser les salariés à demander plus d'efforts salariaux à leurs employeurs. Illustration de ce bras de fer à Toulouse, chez Mecachrome, sous-traitant d'Airbus. Une grève vient de commencer sur ce site, Hugo Charpentier.
Juste devant les ateliers, une assemblée générale des salariés. Chacun prend la parole.
Merci à tout le monde d'être là.
Une partie des 130 ouvriers de l'usine Mecachrome réclame une hausse des salaires.
7% d'augmentation générale et la direction propose 3,3%. Donc on est vraiment loin de nos revendications.
Clément Verger, chaudronnier et délégué CGT.
Le prix de la vie explose littéralement. Avec une inflation qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. C'est de pire en pire. C'est pour ça qu'on a décidé cette année de se faire entendre par la grève.
Parmi ces salariés, Ahmed, ouvrier monteur, 15 ans d'ancienneté et un salaire d'environ
1800 euros. Tout augmente et on n'arrive plus à tenir le bout. Je suis en train de mettre à trouver un deuxième travail pour pouvoir finir mes fins de mois.
C'est évident que ça m'émeut. Hein.
David Klein, le directeur de l'usine.
Après, en fait, le point qui est important, c'est qu'on arrive à trouver l'équilibre entre la raison économique et les demandes des salariés.
Mais augmenter les salaires au niveau de l'inflation, Pour ce patron, c'est non.
Pour notre groupe, en tout cas, c'est pas possible. En termes de matières premières, l'entreprise elle-même subit des inflations. On en a bien conscience que ça provoque des déceptions, mais derrière, en fait, si on n'arrive pas à trouver l'équilibre économique, et ben, en fait, la pérennité du groupe peut en prendre un coup.
Salaire et inflation, une équation difficile à résoudre pour de plus en plus d'entreprises.
Là aussi, les questions de gros sous, mais aussi de conditions de travail. Comment faire revenir les soignants aux urgences? 20% des services fonctionnent mal, faute de personnel. Emmanuel Macron veut un état des lieux. Le président lance donc une mission flash dont les conclusions seront rendues d'ici un mois. C'était la principale annonce de son déplacement hier soir à l'hôpital de Cherbourg. Une mission pour quoi faire? Réagit le collectif Interurgence qui dit ne pas en attendre grand-chose. L'hôpital en crise, l'inflation, mais aussi la polémique post-finale de Ligue des Champions. Les nuages s'amoncellent au-dessus de la majorité présidentielle. À 10 jours des législatives, l'opposition compte bien s'en emparer. Zoom ce matin sur la 9e circonscription de Paris, qui comprend essentiellement le 13e arrondissement. Une figure de la NUP s'y présente. L'écologiste Sandrine Rousseau espère déloger le député marcheur sortant, Bountan. Mais il y a aussi un match dans le match contre une autre Sandrine Rousseau, une homonyme. Au total, cette circonscription compte 11 autres candidat. Pour les électeurs, compliqué de s'y retrouver, Laurence Perron.
Rachida Dati, la figure tutélaire de la droite parisienne, en est convaincue. Son poulain Jean-Baptiste Olivier peut l'emporter ici, en tapant notamment sur le député macronien sortant, Bountan.
Qui a été l'homme invisible, aussi bien à l'Assemblée que sur le terrain.
L'ex-chef d'entreprise, président du groupe d'amitié France-Chine, s'est pourtant illustré en étant le seul marcheur à voter contre la qualification de génocide concernant la répression des Ouïghours.
Aujourd'hui, nous avons évidemment des gens qui ne sont pas contents, mais comme nous avons 92% des promesses tenues.
Elle ne s'en cache pas. Béatrice Cossard, la candidate du parti animaliste, fait d'abord une campagne de sensibilisation nationale.
On n'est pas non plus dupes, hein. On a encore une longue route à faire.
Et en fait, là, s'il y a une majorité à l'Assemblée nationale de députés issus de l'alliance de la gauche...
Ça, c'est Sandrine Rousseau, l'écologiste.
Ça veut dire que le gouvernement sera un gouvernement avec Mélenchon à la tête et des ministres écologistes, de gauche, etc. Sur le bulletin, il faut bien regarder le V de la NUP.
Et pourquoi la candidate de la Nouvelle Union Populaire se voit contrainte de faire cet argumentaire? Parce qu'il y a une autre Sandrine Rousseau, candidate du mouvement de la ruralité, ex-chasse, pêche, nature et tradition.
Ouais. Plus que de se tromper, là.
Non, bah justement, il faut suivre le V de la NUP.
Candidate coup de communication, invisible sur le terrain, elle vit et travaille en Normandie et a refusé de répondre à nos insistantes sollicitations.
Cette 9e circonscription de Paris compte donc au total 13 candidats. Vous retrouvez la liste complète sur franceinter.fr. En ce 1er juin, du nouveau pour le crédit immobilier, pour les nouveaux contrats en tout cas, il est désormais possible de changer d'assurance emprunteur à tout moment et plus seulement à la date anniversaire. Le droit à l'oubli est abaissé de 10 à 5 ans pour les anciens malades du cancer. C'est une plongée dans les méthodes de l'ultra-droite qui s'annonce au palais de justice de Paris. 5 militants comparaissent cet après-midi devant le tribunal correctionnel pour l'agression en 2015 de l'un des leurs, l'ancien chef du GUD, le mouvement étudiant. Parmi ces prévenus, deux ont fait la une plus récemment, Loïc Le Priol et Romain Bouvier, tous deux soupçonnés du meurtre de l'ex-rugbyman Federico Martin Aramburu fin mars. Ariane Grissel, concernant l'agression dont il sera question cet après-midi, tout a été filmé à l'époque.
Le soir du 8 octobre 2015, l'ancien dirigeant du GUD organise une soirée chez lui à Paris. Parmi les convives, Loïc Le Priol, 21 ans, à l'époque, rejoint ensuite par d'autres camarades, dont le nouveau patron du groupe étudiant d'extrême droite. Ils sont 7 dans l'appartement quand le ton monte pour une raison encore confuse plus de 6 ans après les faits. Selon la victime, son successeur, Auguste, n'aurait pas aimé qu'il le traite de balance dans une affaire judiciaire. Les mises en cause, eux, évoquent plutôt un différend au sujet de deux femmes qui auraient accusé le plaignant de les avoir frappées. Les paroles laissent vite place à un déferlement de violence filmé par Loïc Le Priol, une vidéo que s'était procurée le site Mediapart.
Lève-toi, on vient de te dire.
Même si les deux partis contestent tout motif politique, leur idéologie n'est jamais loin.
C'est toi l'idée du fascisme? C'est toi le patron du GUD? Mais t'es personne, regarde-toi, t'es personne, t'es qu'une merde. T'as un putain de français, vas-y, assume! Mais non, t'assumes pas, regarde, t'es qu'une merde.
Contraint de se déshabiller entièrement, de danser, le jeune homme reçoit de multiples coups de poing et coups de pied par des agresseurs que des témoins qui les croiseront un peu plus tard décriront comme alcoolisés. Traumatisé, le plaignant ne compte pas venir cet après-midi à l'audience et a, selon son avocat, coupé tout lien avec ses anciens camarades et leur mouvance politique.
Ariane Grissel en Chine. Shanghai retrouve enfin un peu de liberté après 2 mois de confinement. Depuis cette nuit, la grande majorité des habitants peut se déplacer librement et aller travailler. Centres commerciaux, magasins et pharmacies fonctionnent aux 3/4 de leur capacité.
Il est 7h40, si vous n'aimez pas le kitsch, ce n'est pas le moment d'aller au Royaume-Uni.
Ah non, sur des tasses, des assiettes, des drapeaux, encore plus que d'habitude, le visage de la reine est partout en Grande-Bretagne, à la veille du lancement du jubilé d'Elisabeth II. 4 jours de fête sont prévus pour ses 70 ans de règne. C'est donc l'heure des derniers préparatifs, même dans les petites villes comme Bideford-on-Avon, nord-ouest de Londres, où s'est rendu Jean-Sébastien Soldaini.
Entourée d'une poignée d'amis, Wendy plonge mécaniquement sa main dans un sac rempli de drapeaux britanniques. Il faut aller vite, 1 an qu'elle affine le moindre détail. Pourtant, il y a encore des soucis de dernière minute.
Malheureusement, nous pensions qu'on nous les livrerait assemblés, mais non, c'est à nous de mettre les petits mâts dans les drapeaux et je crois qu'il y en a 3000.
Tout près d'elle, entassée dans un carton et décorée de rubans, des torches qu'elle a hâte de voir briller dans la nuit.
C'est pour un passage de relais au flambeau pour illuminer à la fin, le phare du jubilé, tout le pays va faire ça.
Tout à son affaire aussi, Paul, l'imprimeur du village. Il a dû fabriquer ce que la mairie semble considérer comme l'élément stratégique de ses journées, le programme 35 pages vérifié directement par Buckingham Palace.
Ils nous ont donné l'idée générale, puis le logo et la couleur du jubilé, quelques directives aussi que nous avons suivies.
En voyant toute cette débauche d'énergie, Wendy s'amuse et lance, sourire en coin, tout cela n'est qu'un échauffement pour le jour où il faudra couronner le successeur d'Elisabeth II. Bideford-on-Avon, Jean-Sébastien Soldaini, France Inter.
Lui aussi est une nouvelle fois le roi de la terre battue parisienne. Il n'a pas encore remporté Roland-Garros, mais Rafael Nadal a peut-être fait le plus dur cette nuit en battant son rival de toujours, Novak Djokovic, l'Espagnol qualifié pour la demi-finale au bout de 4 heures de jeu. En demi, justement, vendredi, il affrontera Alexander Zverev.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre sur Inter.